Merci beaucoup. J'imagine que, comme moi, vous avez apprécié le caractère extrêmement clair de la conférence. On voit que c'est un économiste qui a l'habitude de parler à des gens qui ne le sont pas forcément, ce qui est notre cas, la plupart d'entre nous, si j'ai bien vu le peu de doigts se lever. Et en réalité, non seulement nous ne sommes pas économistes, mais je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais on est encore moins des spécialistes de l'économie comportementale. Et donc, c'est un exercice particulièrement délicat d'un côté que d'essayer de répondre sur l'économie comportementale, mais le seul intérêt, c'est que finalement, nous en sommes... vous et moi, je parle pour le public, bien sûr, au même point, donc d'essayer de comprendre ce dont il est question. Je voudrais juste introduire en disant un tout petit mot de l'endroit d'où vient Samuel Ferret, parce que comme il est modeste dans sa conférence, il n'a pas dit, mais donc il vient de Nancy, qui est, je crois, je parle sous votre contrôle, quand même, l'endroit de France... l'école de pointe en analyse économique du droit, qui est une école qui a été largement développée par Bruno Defens, qui est maintenant à Paris. Et donc en France, l'analyse économique du droit reçoit un accueil mitigé. Elle n'a pas la même domination que dans les pays anglo-saxons. Mais alors Nancy, c'est vraiment l'endroit où on fait ça bien. Et alors, ce qui est amusant, je pensais à ça en vous écoutant parler de l'école de Chicago, c'est que dans l'analyse économique du droit, ça a commencé justement, l'école de Chicago a fait sa réputation, du moins c'est comme ça qu'ils ont raconté l'histoire après, en faisant des cours de droit en prenant un économiste et un juriste. Et alors, ils analysaient un arrêt, par exemple, ou une situation, et alors le juriste expliquait selon ses règles que les juristes qui sont ici connaissent, et puis l'économiste disait, ben non, moi je vais vous expliquer tout à fait ça différemment, d'après, évidemment, c'était pas encore l'économie comportementale, hein, c'était l'idée de rationalité illimitée, on va dire, dans le cadre qui allait devenir le cadre post-nérien, et alors l'histoire, c'est que les cours tournaient à la confusion, en fait, du juriste, l'économiste expliquant beaucoup mieux en fait ce qui était en train de se passer que le juriste lui-même, d'où alors le succès effectivement impressionnant de l'analyse économique du droit. Alors ici la situation est un petit peu différente dans la mesure où il s'agit moins de confronter que, alors vous l'avez énoncé la thèse mais de manière là encore très très discrète, mais vous avez dit: je pense que ça va vous intéresser, l'analyse économique comportementale du droit, parce que ça va peut-être vous parler davantage, d'une certaine manière, que l'école post-nérienne. Et donc, l'exercice qu'on a à faire, comme on fait toujours quand on entend parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est au fond de voir, au-delà des décisions de l'autorité de la concurrence française on ne connaît pas non plus, c'est de voir si, au fond, ça nous parle, en tous les cas, les juristes présents dans cette salle, si ça répond davantage peut-être que le modèle standard à ce qui est notre expérience du droit, ou ce qui sont nos expériences du droit, parce qu'évidemment, le droit est très divers et variable. Alors, si on prend l'hypothèse de la rationalité illimitée, alors ceux, en tout cas, qui ont eu cours avec moi, savent que l'exemple que vous avez donné, l'exemple type que vous avez donné de responsabilité civile avec un calcul qui va être sur le montant des précautions d'un côté et la probabilité du dommage, ça effectivement on en a alors une application tout à fait historiquement montrée dans le droit avec la formule de Hand, etc., qui a été utilisée pour résoudre un certain nombre d'affaires de droit de la responsabilité pour négligence aux États-Unis. Mais de manière, alors là on a vraiment l'illustration de dire oui ça marche, enfin bon on l'a fait, mais de manière générale c'est vrai que souvent les thèses de l'analyse économique du droit, et c'est comme ça qu'on peut, classique, c'est comme ça qu'on peut les présenter d'ailleurs aux étudiants, on le fait volontiers pour des raisons pédagogiques, viennent plutôt bousculer les intuitions ou les évidences des juristes. Pas forcément d'ailleurs une mauvaise chose, la neutralité du droit par rapport à l'économie, enfin tout un tas d'exemples vont alors être assez contre-intuitifs. Et donc, l'idée, l'hypothèse en quelque sorte que vous formiez, c'était de dire, mais est-ce que, avec, si on n'est plus dans une situation de rationalité illimitée, si on est dans une situation de rationalité limitée de la manière dont vous l'avez expliqué, est-ce que le juge, lui, va pratiquer des comportements que l'on attend dans cette économie comportementale, c'est-à-dire, vous avez évoqué deux, le redressement cognitif d'un côté et le paternalisme libéral de l'autre. Et ça, donc, il me semble que, en tous les cas, pour le premier point, point du redressement cognitif, que la réponse est positive. Alors, on a ici des spécialistes plus de régulation, de concurrence, etc. Donc, je pense à Xavier Daton qui interviendra certainement dans la discussion et qui pourra dire ce qu'il en est de la manière dont les autorités de régulation chez nous, ou au niveau européen d'ailleurs, bref, je ne vais pas commencer à citer tous les spécialistes parce que sinon ça va être Michel Drucker ici, mais on a, donc là ils pourront le dire, mais moi je ne le peux pas, mais ce que j'ai tendance à faire en écoutant le redressement cognitif par le juge, on voit qu'il y a des gens dont en fait le comportement a été biaisé, ce comportement biaisé est peut-être le résultat délibéré et peut-être pas des stratégies d'un plus ou moins honnête, d'un entrepreneur avisé qui lui l'est rationnel en quelque sorte, ou qui a des spécialistes du marketing qui lui expliquent comment jouer sur les biais. Est-ce que le juge alors peut intervenir pour redresser ses biais cognitifs? Là, je pense qu'on a une évolution, donc en me situant sur le terrain tout à fait général du droit des obligations et en parlant aussi sous le contrôle des spécialistes de cette matière dans cette salle, là je pense qu'on peut dire qu'il y a vraiment eu une évolution du droit, une évolution des droits des obligations dans le sens effectivement de permettre au juge de redresser ce biais cognitif, et ça par le fait que il y a eu une sorte de renversement pragmatique de droit des obligations qui dit que le sens, c'est ce qui peut être légitimement interprété par une personne normale placée dans la situation où elle l'était. Et donc, admettons que cette personne normale placée dans la situation où elle l'était ait subi un biais cognitif, eh bien, le juge peut alors intervenir pour la protéger ou pour la libérer de ses engagements, ou bien même pour imposer à une autre personne d'en subir les conséquences. Bon, alors il y a de multiples exemples de ça en droit des obligations. Bien entendu que s'il y a eu un dol, s'il y a eu des tromperies pour créer ce biais cognitif, eh bien, on va libérer celui qui est victime de cette fraude et on va sanctionner le fraudeur, ça c'est le cas simple, mais indépendamment du fait qu'on aurait trouvé cette fraude, si la personne peut montrer qu'en fait elle a contracté une obligation, elle a contracté un engagement parce qu'elle a été induite en erreur sur un élément décisif pour elle, même si l'autre ne l'a pas trompée, même s'il n'a rien fait pour la tromper, mais qu'il était clair que cet élément était décisif du consentement, alors, eh bien, on va pouvoir annuler l'obligation ou le contrat. Il y a d'autres théories, je ne rentre pas dans un cours de droit des obligations, mais la théorie de l'apparence va encore plus loin à ce niveau-là. Alors, ça veut dire qu'on a effectivement un juge qui dit voilà, le consentement d'une certaine manière a été biaisé par la faute de quelqu'un ou sans la faute de quelqu'un, donc ça va bien au-delà de la responsabilité, et je vais protéger au fond celui dont le consentement a été biaisé, ce qui permet en quelque sorte de est-ce que ça redresse le biais? En tous les cas, ça empêche la personne ne doit pas payer les conséquences, ce n'est pas elle qui supporte le risque, le coût de son consentement biaisé, mais ça va être une autre partie. Évidemment, il faut toujours que quelqu'un supporte le risque ou le coût de cela. Et alors, ici, je vais faire référence à quelque chose que tout le monde connaît, parce que ça a été, cette théorie a été, enfin, cet ensemble de situations, on pourrait multiplier encore les exemples, a été, quelqu'un en a fait la théorie générale, qu'on connaît bien dans notre faculté, qui est Xavier Dieu, en disant que ce principe, et je le mentionne parce que ça, ça va intéresser tout spécialement l'économiste, qu'en réalité, tout ça, c'est le fait que le juge va appliquer le principe de respect des anticipations légitimes d'autrui. Hein? Quand on parle de respect des anticipations légitimes d'autrui, pour un économiste, normalement, il pense à Hayek. Hein? C'est Hayek, en fait. Hein? Donc, et là, il y a l'idée, ma question, et là, je vais vous adresser une question qui est de savoir, mais au fond, comment l'économie comportementale se situe-t-elle par rapport, non pas cette fois à l'école de Chicago, dont vous avez parlé, mais à l'école d'Hayek, dont vous n'avez pas eu, bon, c'est pas parlé de tout en une heure. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que dit Hayek par rapport au rôle du juge ? Il dit que le juge applique un certain nombre de règles qui ont été sélectionnées dans le temps comme étant des bonnes règles, et que ces règles visent en fait à protéger les attentes des parties les unes avec les autres, pour qu'elles puissent en fait prendre des bonnes décisions en fonction d'une information de qualité. Hein, c'est ça. Donc Hayek, alors là, on peut faire le lien avec le deuxième point, Hayek est tout à fait contre un juge paternaliste, parce qu'il dit en fait notre société est hyper complexe, et donc il n'y a aucune autorité centralisée, certainement pas le législateur, certainement pas le régulateur, mais même pas le juge. Le juge ne sait pas en fait ce qui est bon pour les acteurs. Seuls les acteurs vont pouvoir, par leur expérience et leur choix, contribuer à découvrir quelque chose de bien, et ce sera le progrès de la société. Mais pour qu'ils puissent le faire, alors ce juge, sans savoir ce qui est bien, va les protéger chaque fois que, au fond, ils ont été biaisés dans les informations sur base desquelles ils ont pris leur décision. Hein, et donc, effectivement, j'ai l'impression que le redressement du biais cognitif, on l'a tout à fait dans notre droit positif. Il est en rapport avec l'économie comportementale. Il me semble qu'il est aussi, ou déjà, dans Hayek. Donc, qu'en est-il de leur relation ? Alors, sur le paternalisme libéral, là, c'est beaucoup plus compliqué. En plus, vous avez dû aller un peu vite. Hein, on voit effectivement très bien comment on va dire le consommateur peut renoncer dans les 7 jours, etc. Mais comment le juge lui-même va mettre en place ce genre de choses, je n'ai pas d'exemple qui me vient, mais peut-être que, encore une fois, au niveau de régulation, etc., on a des exemples qui pourraient venir. Ce que je dirais, moi, du juge, c'est qu'il est paternaliste sans être libéral. Hein, c'est-à-dire que il sait très bien, dans notre modèle, qui est quand même dominant, le domaine de la balance des intérêts, il va se comporter en ingénieur social, doté d'une rationalité, en tous les cas, il voit le bien-être général, donc il fait le calcul des coûts et des bénéfices des actions des uns et des autres, et il va assurer une situation soit de maximisation, soit d'équilibre par sa décision. Ça, oui, paternalisme franc et massif assuré au niveau de la jurisprudence. Mais paternalisme libéral, je ne vois pas. Mais je ne conteste pas. Je ne vois pas les exemples. Il faudrait, c'est comme toujours avec le droit, c'est les cas qui réveillent l'esprit. Et alors, je termine sur l'idée de cette nouvelle tendance de l'économie comportementale, de voir si les juges eux-mêmes ne sont pas affectés de biais. Alors ça, je dirais que ça renvoie à un courant de théorie du droit qu'on connaît bien et qui est déjà ancien et qui est un certain courant du réalisme, du mouvement réaliste américain, qui consiste à dire ce que les juges décident dépend de ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner. Vous voyez ça. Donc, effectivement, il y a tout... Si vous voulez savoir ce que le juge va décider, regardez les facteurs déterminants de sa décision. Et cette méthode, bien qu'ancienne, n'a rien perdu de son actualité, puisque, par exemple, dans le droit américain, où les jurys jouent un rôle déterminant, et donc le verdict est rendu par des jurés, cette analyse fait l'objet d'une, de beaucoup d'investissements de la part des partis qui essayent de bien connaître les candidats jurés pour composer un jury qui a beaucoup de chances de leur donner une solution qui soit favorable. Donc l'idée que le juge ou ce qui en tient lieu est biaisé et qu'en fonction aussi, alors on compose des panels de jurés qui ont les mêmes biais que le jury qu'on a effectivement eu, parce qu'on n'a pas toujours le jury qu'on a. Hein, il y a une part aléatoire, évidemment, hein, ça sort d'une boîte et puis on récuse, mais l'autre partie récuse aussi. Et donc, mais après, une fois que le jury est constitué, on essaye de reproduire des panels qui ont les mêmes biais pour tester sur eux la ligne argumentative, notamment. Et donc ça, je dirais que ça... Mais en même temps, ça me semble, bien que ce soit... très à la mode, on a même fait un film là-dessus, me semble-t-il. J'oublie toujours le titre de ce film, parce que le film n'était pas très bon, mais où on voyait comment on testait des arguments sur les jurys. Bien que ce soit très à la mode, ça correspond, me semble-t-il, à une base théorique qui est assez ancienne, y compris les déterminants psychologiques des juges, où il y a déjà des publications dans les années 20, je dirais. Voilà, mais en tous les cas, ça m'intéressait énormément. Et alors, je suis curieux, puisque c'est la question principale, de vous entendre sur votre rapport, sur le rapport de l'économie comportementale à l'ordolibéralisme ou à l'économie.